Le temps, nous dit-on, est venu pour un changement. Pour de nombreux observateurs, la crise financière a en quelque sorte sonné le glas d'un modèle devenu incontrôlable, un modèle hérité du 19e siècle basé sur la libre entreprise et la liberté individuelle, un modèle très matérialiste et hyper individualiste dans lequel l'éthique et la morale, entre autres valeurs, ont été mises de côté. Alors aujourd'hui, certains profitent de cette crise mondiale pour prôner un changement. Mais finalement, pour quelle société? Basée sur quelles valeurs? Et comment provoque-t-on un changement de paradigme? Qui le porte? Combien de temps faut-il intégrer pour intégrer justement ces nouvelles valeurs? Mais seulement a-t-on envie d'un changement? On va en parler, vaste débat ce matin avec nos invités qui sont Aldo Chorneau, économiste et chargé de cours à la HEG Genève, Serge Lederman, conseiller financier indépendant, et Eric Jaffrin, spécialiste en marketing non marchand, également bonjour. Professeur à l'Université de Lausanne. Bonjour et bonjour. Bienvenue à vous tous.
Merci.
On vous souhaite aussi une bonne année, ça s'est bien passé la transition?
Très bien.
Vous êtes en pleine forme?
Excellent, on est là.
Vous êtes là. Bon, ça c'est déjà une. Ouais, pas encore tombé, malgré les routes, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, extrêmement, extrêmement glissante. On l'a entendu, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois. Il y a un discours, et c'est assez frappant finalement, de, en quelque sorte, retour à certaines valeurs, dû évidemment à un discours engendré par cette crise financière. Petite question, peut-être Aldo Chorneau, puisque c'est vous aujourd'hui qui nous proposez ce sujet. Est-ce que finalement c'est un discours pour se donner juste bonne conscience, ou il y a une véritable prise de conscience où on se dit que là, on a atteint certaines limites et puis qu'il faut un changement?
Moi, je pense qu'il y a effectivement un peu des deux. Il y a d'abord les discours prétextes. Tous ceux qui ont défendu le néolibéralisme, qui aujourd'hui on peut virer de manteau, virer de bord, ne sont probablement pas vraiment convaincus de la nécessité d'un changement en profondeur. Mais aussi toutes les autres mouvances qui ont accompagné la globalisation et toutes les idées de contestation et mesures de contestation ou d'accompagnement de la globalisation qui ont fait défaut, qui aujourd'hui effectivement ont le vent en poupe. Partant de là, il est certain, il y a aussi une volonté de changement plus en profondeur, on le sent dans la population, on le sent en suivant les médias et même auprès des spécialistes économiques et financiers, de plus en plus de voix s'élèvent en ce sens-là.
Vous partagez ce constat, Serge Lederman?
En partie, effectivement, aujourd'hui, les nouveaux discours qu'on entend de la part des hommes politiques des principales puissances mondiales, à mes yeux, sont plus de l'agitation et une certaine forme de récupération, puisque c'est une manière de prendre du leadership à un moment où effectivement le monde en a besoin. Par contre, aujourd'hui, un nouveau modèle fait véritablement défaut. Je pense pas que le capitalisme doit disparaître en lui-même, mais par contre, c'est ses excès aujourd'hui qui sont apparus pleinement au cours des 5 à 10 dernières années qui nécessairement doivent être corrigés et doivent nous amener globalement et à l'échelle planétaire, pas juste dans les grandes puissances, vers un nouveau modèle.
Eric Jaffrin, on évoque quasiment parfois le côté opportuniste des politiciens qui savent sortir un discours parce qu'il le faut à un moment donné. Du côté financier aussi, on accepterait quelques modifications, mais on a l'impression malgré tout encore du bout des lèvres. C'est Aldo Chorneau parlait de la population. Vous sentez réellement une envie, un besoin de changement auprès des gens?
Alors il y a un besoin de changement. On peut dire qu'il y a une tendance lourde de désir de changer. Beaucoup plus dans la population que dans tous les mécaniciens du système. C'est-à-dire que le problème, c'est que à la fois l'aspect financier, qu'à l'aspect économique, commercial, je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai désir de changement. Il y a plutôt, actuellement, ce que l'on voit, c'est d'une part ce désir de changement, une tendance lourde du consommateur ou du citoyen en tant que tel, mais les structures ont plutôt envie. J'ai un peu le sentiment qu'ils mettent en place ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est-à-dire, on va essayer de fabriquer soi-même une sorte de placebo, de jambes de bois pour sauver le système, parce qu'il y a toute une structure de pouvoir qui a été mise en place et peu de gens qui sont dans ce système-là imaginent changer complètement de modèle. Ça leur fait trop peur. Alors qu'on est en face d'une société, d'une population qui dit « moi je veux la vérité » et puis le système dit « moi je veux sursécuriser ». Et ça c'est le gros problème. Je dirais que les gens ont plus besoin de vérité que de sécurité. Je dirais que qui va à ce moment-là mettre en place un bon sens de l'économie, ou un bon sens tout simplement de la société, où on essaye d'éviter de créer une dualité constante entre le social et l'économie, entre la droite et la gauche. Or, le nouveau modèle de société, c'est de créer un vrai projet de société dans lequel les gens vont pouvoir développer leur créativité, développer l'économie, mais avec du sens. Moi, je me souviens, j'ai entendu récemment, dans une radio, le directeur marketing d'une très grosse société multinationale qui disait « Moi, j'ai arrêté, j'ai voulu donner du sens à mon travail. » C'est quand même assez symptomatique d'une grosse société, d'un des dirigeants qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit « Ben voilà, moi, j'ai développé, je crois, la culture de banane, je crois, un truc comme ça. » Et il dit « Ben, au moins, ça sert à quelque chose. » Alors, grosse question, c'est ça veut dire quoi? Que les entreprises ne servent à rien? Probablement, oui. Mais elles ne veulent pas remettre en question le sens, je dis bien le sens profond de l'intérêt général d'une économie. C'est plus l'intérêt privé qu'autre chose.
On va revenir effectivement sur ces possibilités, ces développements qu'on pourrait mettre sur la table ce matin, mais d'abord simplement sur ce constat au niveau du bras de fer entre les défenseurs, les tenants d'un système financier qui malgré tout donne l'impression de ne pas vouloir vraiment se réformer, peut-être une demande, ce besoin de valeur, d'éthique, de morale, qui va en sortir gagnant? Est-ce qu'il y aura un gagnant? Est-ce que vous y croyez fondamentalement à Aldo Chorno?
Ma conviction personnelle, mais c'est une opinion, c'est une conviction justement, là je fais un acte de foi, c'est bien entendu, on va sortir gagnant de la crise et le côté gagnant ne sera pas le capital mais le travail.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire la population, comme le dit monsieur, il faut un projet social nouveau auquel l'ensemble de la population puisse adhérer. L'adhésion à la globalisation a été forcée et contrainte, soyons francs, c'est l'évidence même, c'est pas pour rien que depuis les années 90, et c'est symptomatique, tous les services du personnel se sont fait renommer successivement ressources humaines. Or les ressources se grillent dans un processus de fabrication et de production. D'accord. Ces petits changements, rien que étymologiques ou linguistiques, sont assez significatifs aussi. Il me semble effectivement que la crise va obliger maintenant, et c'est toujours un processus, l'histoire nous le montre, autant dans les années 30, l'émergence de l'État social, qu'aujourd'hui, on a effectivement là des pouvoirs en jeu, des intérêts en jeu, comme vous l'avez si bien souligné, et un changement de paradigme, un changement de modèle se fait de façon généralement, même si c'est par biais révolutionnaire dans la durée. C'est des processus qui durent 5, 10, 20 ans, avant qu'effectivement un nouveau modèle proprement dit puisse émerger. Partant de là, on a bien vu par le passé la concurrence entre le modèle allemand du capitalisme, l'économie sociale de marché, avec une représentation des employés obligatoires dans les grandes sociétés anonymes, par exemple, au niveau du conseil. On a bien vu que le capitalisme anglo-saxon, beaucoup plus libéral, l'a emporté dans la globalisation. Revenir à un modèle allemand d'économie sociale de marché ne suffira pas. Il faut dépasser ce modèle maintenant.
Et trouver d'autres voies, d'autres
pistes. Et une troisième voie, absolument. J'anticipe un peu sur ma conclusion. L'idée serait, pour essayer de formuler ça dans une formule un peu un capitalisme à visage humain, tout simplement.
Alors, vous allez nous expliquer dans quelques secondes ce que c'est ce capitalisme à visage humain. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on reproche finalement, Serge Lederman, à notre système dans lequel nous évoluons aujourd'hui? C'est quoi le problème?
Le problème, c'est toujours les excès. Je dirais que les crises font partie du système. Il ne faut pas l'oublier. On va globalement de crise en crise. Alors, ce qui s'est passé ces dernières années ou ces dernières décennies, c'est que la fréquence des crises a probablement augmenté et leur importance a augmenté. Celle-là est vraiment une crise d'une très grande importance. Beaucoup d'experts s'accordent à dire que c'est probablement la plus importante sur le plan économique, mais également sur le plan financier et social qu'on ait connu depuis celle des années 30. Donc la crise fait partie du système et très souvent les crises viennent d'un excès d'endettement. Et là encore, typiquement, on est rentré dans ce mode-là. Et effectivement, l'endettement est utile lorsqu'il est bien utilisé et bien encadré. Or, dans le cas présent, il s'est développé dans des proportions tout à fait inhabituelles, de manière sauvage et débridée, jusqu'au moment où effectivement l'automobile a frappé le mur et où aujourd'hui on est en train de faire le compte des dégâts. Donc une économie basée sur l'endettement tout à fait débridé et malsaine et engendre le genre de crise dans laquelle on est aujourd'hui. Alors il faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde en a bénéficié de cette montée de l'endettement pendant
pendant de nombreuses années. Certains experts estiment qu'on a ajouté jusqu'à 1% de croissance du produit national brut à l'économie américaine pendant les 20 à 25 dernières années. Donc, ce n'est pas juste les financiers qui ont bénéficié de ce recours à l'endettement, c'est l'ensemble de l'économie à toutes les échelles. Mais c'est le fait qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, le fait effectivement que le libéralisme à tout craint, finalement, parce que les résultats étaient bons pendant très longtemps, a été érigé comme modèle. Regardez les résultats, ça marche, donc on continue. Et puis, on continue jusqu'au moment où, effectivement, on commet des excès et on casse complètement le système.
D'accord, ça c'est pour le constat, l'analyse. À partir de là, vos pistes, vos solutions. Vous avez parlé, Aldo Chorno, effectivement, d'un capitalisme à visage humain. Ça veut dire quoi, concrètement?
Alors, très concrètement, c'est tout simplement un capitalisme qui retrouve ses bases éthiques qu'il a perdues dans le processus de la globalisation. Je cite bilan, 1er février 2006, page de couverture, « Le vice paye plus que la vertu ». C'est le problème résumé en une phrase. On a effectivement retiré finalement de l'ensemble des réflexions économiques les bases d'égoïsme bien compris, d'intérêt bien compris selon Adam Smith, etc. Toutes les valeurs morales, éthiques ont été mises en retrait et soumises au pur paradigme finalement de l'enrichissement légitime à court terme par le commerce et l'exploitation des ressources. Le paradigme de la Renaissance finalement. Et partant de là, il faut moraliser maintenant à nouveau l'économie, la finance et l'ensemble de la société.
Mais moraliser l'économie, la finance, ou ce sont les gens qui ont besoin de morale.
C'est des valeurs toutes simples, de décence, d'intégrité, qui tombent sous le sens, d'accord? Puisque l'être humain est, on va y revenir, parce que marketing, emballage, technique de marketing, push-pull et autres, il y a plein d'abus aussi au niveau des modèles d'affaires, par exemple, pour rendre captifs les clients. Il y a des attitudes que je taxe, moi, de carrément malhonnête et de concurrence déloyale qui aujourd'hui sont pratiques courantes. Il y a 20 ans, vous vous mettez à la porte sur le champ pour ce genre d'attitude.
Oui, absolument. Mais disons, moi, ce que je crois, Eric, c'est que ce que j'appelle le vrai marketing n'est pas marchand. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que la vision, je comprends ce que vous voulez dire quand vous parlez de capitalisme humain, mais je ne suis pas certain qu'on peut humaniser le capitalisme comme on peut créer une éthique dans un système. Je dirais que c'est beaucoup plus lié à l'homme qu'un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas moraliser un système. J'y crois pas. Il y a, comme on dit aussi souvent, l'argent n'a pas d'odeur. Dans ce sens, moi, je trouve que oui, l'argent a de l'odeur. Ouais. Parce qu'elle répond.
Surtout le dollar, oui.
Voilà, mais disons qu'elle est, la résultante de l'état d'âme que l'on met ou que l'on a dans une activité. Le capitalisme ou le socialisme, ou appelons ça ce que l'on veut dans un système économique, ne marche pas. Je dirais que le gros problème que l'on a, c'est qu'on veut essayer de créer un système. Alors, vous parliez de marketing. Effectivement, quand on parle d'emballage ou de promotion, de discount, etc., on se trompe lorsque l'entreprise vise le profit. Le vrai marketing, ça n'est pas la recherche du profit, c'est de répondre aux besoins des gens. Et que si on arrive...
Mais c'est pas comme ça que ça se pratique. Ça, c'est la théorie, c'est pas la pratique, malheureusement.
Non, je le pratique depuis une vingtaine d'années, et j'y arrive, je le vois dans les clients ou dans les cours que je donne, où il y a une vraie recherche d'un nouveau modèle ou d'un autre modèle que simplement la reproduction de certains mécanismes, vous parliez de foi tout à l'heure, auxquels on a cru sans approuver vraiment que ça tenait. Et je dirais que tous les prophètes de la foi financière se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'audience et ils se disent maintenant il faut trouver un autre système. Mais non, il ne faut surtout pas trouver un autre système, il faut penser autrement la société.
Et ça veut dire quoi, penser autrement la société?
La société, c'est d'abord, avant tout, une question de communauté. On est dans une communauté, alors on parle avec des tendances culturelles, sociales, économiques, etc. Mais au-delà de ça, la communauté, ne serait-ce que déjà un couple, déjà la première communauté, la famille, la communauté, elle n'existe que si chacun répond aux besoins de l'autre. Et là, ça donne du sens à l'économie. Si je crée un produit pour simplement satisfaire mon besoin de profit, on se trompe de l'économie. C'est une économie non seulement virtuelle, on l'a vu, mais en même temps, elle est mensongère, manipulatrice. Je dirais que le véritable enjeu...
Vous êtes en train de tout jeter le système capitaliste, parce qu'il a quand même apporté une augmentation du niveau de vie, il a quand même apporté passablement de richesse à des générations.
Oui, non mais je dis pas que je rejette, je veux pas créer, me mettre en opposition à quelque chose qui existait, parce que je dirais que tout système... où toute idée va générer forcément un travail. Il suffit de se renouveler, gérer un parc immobilier, ça va donner du travail à tout le monde. L'intérêt, c'est de savoir pourquoi on le fait et dans quel but on le fait. Et dans ce sens-là, ce type de capitalisme ne fonctionne pas. Il ne fonctionne uniquement avec et grâce ou par certains élites qui profitent de cette émergence financière nouvelle, mais qui en rien ne satisfait la communauté.
Alors, en deux mots, juste un mot. Après, vous allez détailler effectivement ce que vous voulez dire.
Parce qu'au fond, nous sommes d'accord, et votre intervention illustre précisément ce besoin de changement, cette recherche. Alors, en deux temps, les remarques, Monsieur Liederman l'a dit aussi, l'innovation financière et la globalisation, où le système capitaliste a aussi ses aspects positifs, notamment en termes de création de bien-être et de liberté, pas pour tous. Il y a eu plus de liberté pour le capital que pour les employés ces derniers 10 ans, on l'a bien vu. Mais on est d'accord quant à la ligne que le changement doit envisager. On peut bien affirmer, comme vous le faites, que le capitalisme n'est ni immoral, ni moral, il est amoral, par définition, ou l'économie. Mais de l'autre côté, on est en contradiction, puisque je suis d'accord avec vous, ce qu'il faut changer, c'est la mentalité collective, l'assise éthique et morale, justement, de la société et de l'économie. Il faut arrêter, comme vous venez si bien de le dire, il faut focaliser, pour le dire avec Épicure, sur les besoins et les plaisirs naturels et nécessaires de l'humanité à satisfaire en priorité et non pas les besoins non naturels et non nécessaires.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement. Boire, manger, un toit,
alors selon Épicure, un besoin ou un plaisir naturel et nécessaire, c'est procréer par exemple, manger du pain, boire de l'eau pour se nourrir et c'est tout.
Mais vous voulez qu'on retourne, je sais pas, 200 ans en arrière?
Non, ça c'est maintenant pour provoquer un tout petit peu ou dire où on veut en venir avec ces nouvelles valeurs qui doivent justement revenir. Satisfaire les besoins de base, créer des relations de confiance dans la durée, l'économie et toute société et toute activité sociale est aussi en même temps un échange économique ou de services entre guillemets.
Oui, mais au risque de faire de la sémantique, c'est pas de la nouvelle valeur, c'est de la valeur.
C'est pas pour rien que je dis moraliser ou remoraliser. On va pas inventer de nouvelles valeurs, on en a pas besoin. La nature humaine est ce qu'elle est. Et l'être humain, la philosophie nous le montre bien, malgré lui, est un animal social et moral.
Mais que je vous comprenne bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à peut-être des besoins plus primordiaux, dans une certaine simplicité.
On peut dire très concrètement, premièrement, refocaliser l'économie sur les besoins effectifs et régionaux, et non pas globaux. D'accord? Ne pas courir en Chine parce que ça brille, mais d'abord penser à satisfaire les besoins réels de la population qui sont là en termes de santé, d'éducation, de social. Au lieu d'être dans une économie de gadgets, moi j'appelle ça l'économie marketing pull, etc. Ou tous les 6 mois, où on flanque un nouveau téléphone et ainsi de suite. Hein. Et si vous ne suivez pas le mouvement, vous êtes dépassé. Et déjà, les techniques de vente, les techniques de production en informatique et dans d'autres services pour rendre captifs les clients et dépendants. Ce qui est foncièrement malhonnête. Ça contredit toutes les valeurs d'intégrité classique, tout simplement. Deuxième piste, réformer la législation dans le court terme économique et social de telle façon à davantage créer, comme le dit monsieur, de la justice fiscale et salariale. On ne peut pas continuer à accepter que les rendements financiers soient exceptionnels, que les hauts revenus s'écartent et galopent à l'infini, tandis que le revenu moyen baisse constamment. Alors là, il y a des correctifs importants, sociaux, à apporter pour justement pouvoir faire adhérer à nouveau à des valeurs fondamentaux qui doivent sous-tendre toute société qui fonctionne, des valeurs justement de bonne foi, d'intégrité. Pourquoi ne pas dire de partage et d'altruisme plutôt que de compétition et d'égoïsme? Voilà. Donc on retrouve une notion de la philosophie grecque ancienne. Nous sommes manifestement tous conscients autour de ces tables. Tout est un. Et chaque individu, chaque agent économique et social, dès qu'il est conscient du fait « tout est un, je fais partie d'un tout », il y a une autorestriction qui s'imposera en termes éthiques et économiques, qui va déjà beaucoup contribuer à changer, à défaut de changer les lois ou le système, à l'améliorer parce que l'esprit qui l'anime sera meilleur. Mais ça suffit en soi.
Serge Lévin.
Ce que vous disiez sur le revenu du capital, force est de constater que 2008, on a remis les pendules à l'heure. De ce point de vue-là, on a détruit la valeur comme rarement auparavant. Donc oui, il y a peut-être eu un déséquilibre qui s'est creusé entre le revenu du capital et le revenu du travail. Force est de constater qu'en 2008, les choses se sont réadaptées. Malheureusement, à court terme, ça crée effectivement un choc économique majeur qui va également détruire des places de travail. Donc il va falloir les recréer, les reconstruire. Et c'est précisément là où certains des points qui ont été mentionnés autour de cette table sont importants. Il ne faut pas reconstruire comme avant, il faut reconstruire différemment. Moi, je ne suis pas non plus un adepte du changement total. C'est la faillite, il faut qu'on oublie complètement ce qui a été fait, puis on recommence sur des bases nouvelles. On en serait tout à fait incapable.
Donc vous êtes adepte de quoi ?
Donc je suis adepte effectivement de reconstruire, mais avec un plan, et un plan véritablement à moyen à long terme, qui rejoint en grande partie ce qui était dit, à savoir un rééquilibrage entre les forces et donner effectivement une vraie valeur au travail, quel qu'il soit. Si on prend le domaine financier, qui est celui que je connais le mieux, moi j'ai commencé il y a 30 ans dans la finance, il y a 30 ans, que faisaient les banques essentiellement ? Elles étaient un véritable intermédiaire entre les banques centrales et l'économie, elles octroyaient du crédit, et elle gérait l'excédent de trésorerie des entreprises et des particuliers. C'est une activité qui était tout à fait normale, louable, rémunératrice comme le reste des activités. Et il faut bien le dire, en Suisse, c'était pas vraiment là que se précipitaient les jeunes licenciés de l'université. Elle a progressivement un peu perdu cette fonction, et on l'a vu en tout cas ces 10 dernières années. Si on pense à notre plus grande banque, faire des crédits auprès des particuliers en Suisse, ça les intéressait plus beaucoup, puisqu'on pouvait effectivement maximaliser ses rendements ailleurs différemment, mais avec un profil de risque beaucoup plus élevé, oui. Avec une fonction économique et sociale discutable, et avec les conséquences qu'on sait aujourd'hui. Mais donc ça c'est valable pas seulement pour la finance, mais la finance elle joue un rôle essentiel, puisque c'est effectivement le liant qui est nécessaire pour l'économie. Mais c'est valable dans tous les domaines d'activité.
Mais moi, je vous entends, c'est beau ce que vous dites. Mais concrètement, comment en fait-on ? Parce qu'on a beaucoup parlé de valeurs autour de cette table ce matin, c'était le cas aussi dans l'émission d'hier. Comment fait-on pour induire, pour que ces plans que vous êtes en train de dresser se concrétisent et qui finalement en enchaînent ou amènent un changement ? Comment inculque-t-on de la valeur ?
Il y a deux façons de le faire. C'est-à-dire qu'en marketing, on parle d'une méthode push ou pull. C'est-à-dire qu'on essaye soit d'influencer la tête, soit on essaye d'attirer la foule. Et je dirais que influencer la tête, c'est un peu difficile parce que c'est un rapport de force. Et donc la tête, aujourd'hui, ça a été l'aspect financier essentiellement. Si l'on essaye de reconsidérer ou de se reconsidérer différemment, notamment d'arrêter de croire que nous sommes, et souhaité d'ailleurs par le capitalisme, des objets de ressources pour l'entreprise. Et ce qui a été malheureusement le cas pendant des années. Le jour où les ressources humaines, les actionnaires, ou le directeur général, ou le PDG comprendra que l'humain n'est pas un objet de ressources de l'entreprise, mais que l'être humain est d'abord et avant tout un liant de la société dans laquelle il travaille, ou de l'économie dans laquelle il travaille, ou la communauté dans laquelle il travaille, à ce moment-là, les choses changeront.
Oui, mais comment ce changement arrivera-t-il, Jaffrin ?
Alors, je vais vous dire quelque chose, peut-être un peu ridicule, mais quoique. J'ai rencontré un jour une personnalité politique qui me dit, mais est-ce que tu pourrais faire ma publicité, etc. Je dis oui, à une condition. Je dis laquelle ? Je dis, mais si tu arrives à appliquer un proverbe qui est connu dans le monde entier, c'est lequel ? Aime ton prochain comme toi-même. Sa réponse, il dit, tu es trop dur.
Ah, pour un politicien, effectivement, la barre était haute.
C'est ça ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est capable d'oser risquer et de croire à l'autre et non pas de se sécuriser dans un système. Alors dans ce sens-là, l'esprit d'entreprise doit changer, la vision de l'économie doit changer, c'est-à-dire répondre aux besoins de l'autre plus qu'aux besoins de l'entreprise. Et rien que déjà ça, c'est un mécanisme, une mentalité qui va entraîner un autre mécanisme que celui de dire je veux amasser de l'argent pour être en sécurité, ou je veux gagner mes galons dans l'entreprise pour gagner plus d'argent. C'est déjà un changement de mentalité.
Comment peut-on changer la société ? C'est la thématique passionnante qu'on soulève ce matin. On va la poursuivre, mais d'abord une information routière.
Infotrafic, RSR.
Soyez prudents, le risque de verglas est très important sur les routes de Suisse romande. Les conditions de conduite sont difficiles, notamment en région lausannoise où un danger de verglas important est signalé, en région genevoise où plusieurs ponts sont gelés, ainsi que des conditions de route difficiles dans le secteur de Mérin, Satigny et Bernay. En région fribourgeoise où l'ensemble du réseau cantonal est signalé comme dangereux, ainsi que dans les régions vaudoises, neuchâteloises, jurassiennes et bernoises où la neige recouvre toujours plusieurs tronçons et provoque la formation de plaques de verglas. Grosso modo, faites très attention, soyez extrêmement prudent ce matin. Il est 8h30, vous êtes à l'écoute du Grand 8. Nous accueillons Patricia Mélon pour le rappel des titres.
Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas voté de résolution de trêve dans la bande de Gaza. Israël a massé ses hommes et ses blindés à la frontière avec le territoire palestinien. Une attaque terrestre semble imminente. Une boîte de nuit a pris feu cette nuit à Bangkok. Des centaines de personnes fêtaient Nouvel An. Les autorités thaïlandaises font état de 60 morts et de 200 blessés. Des cambrioleurs ont battu un sexagénaire jusqu'à le tuer. Ils ont également frappé l'épouse qui tentait de secourir son mari. Les faits se sont déroulés à Épalinges. La police vaudoise lance un appel à témoins. Soleil pour tout le monde et durant toute la journée. Aujourd'hui en Suisse, il fera environ 3 degrés cet après-midi.
Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Patricia Mélon. À demain, 8h31. Comment peut-on changer notre société? Le faut-il à vous entendre ce matin, messieurs? Oui, il y a la possibilité, il y a en tout cas une volonté. Les pistes se font entendre. Je voulais simplement vous reposer une question, Aldo Chorno. Notamment, vous parliez de cette société de consommation où on dit, grosso modo, si on ne change pas de portable, par exemple, chaque 6 mois, on est has-been, on est à côté de la plaque. Par rapport à ça, c'est quand même un comportement qui est profondément ancré dans notre manière et qui participe très, d'une manière importante à cette société de consommation. Mais ça, comment fait-on pour changer?
Alors, on l'avait dit d'entrée des missions, c'est des processus longs. Il y a des intérêts en jeu, ça met des années à décompter, à se rééquilibrer. Comme on l'a vu par le passé, ça peut être plus ou moins violent et brutal, comme les années 68 par exemple. Comment on a fini la révolution entre guillemets de 68? On a augmenté le SMIC français de 25% du jour au lendemain, les ouvriers sont rentrés dans les usines. J'espère qu'on aura une même résolution de la crise actuelle. Non, soyons sérieux maintenant. Les solutions, effectivement, relèvent d'abord des mesures d'urgence dans l'immédiat. Intervention au niveau de la législation économique, sociale. On peut parler là, maintenant on n'aura plus le temps, mais ça c'est certainement un volet sur lequel l'action est en cours. Deuxièmement, réfléchir sérieusement maintenant à faire de la place à toutes les alternatives qui ont été rejetées les derniers 15 ans et qui font tout à fait du sens. La taxe Tobin peut en être une, le jubilé pour les dettes du tiers-monde est certainement une deuxième idée à poursuivre et ainsi de suite pour créer plus de justice à travers le monde. Entre salariés et entrepreneurs, mais aussi entre le Nord et le Sud, les aînés et les plus jeunes. Ensuite, comme vous venez de le dire vous-même, ça relève de l'éducation. Changer les mentalités, changer la vision, changer la base éthique, évidemment, favorise, exige un effort sur l'éducation qui va au-delà de ce qu'on a vu avec les réformes des écoles et des autres écoles jusqu'à maintenant, qui n'ont tenu compte finalement que des besoins économiques et non pas du besoin affectif et de culture générale et d'élévation de l'âme, de l'homme, tout simplement.
Mais à vous entendre, Aldo Chorno, effectivement, Éric Jaffray, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou Serge Lederman, le politique dans ce rôle a énormément d'importance dans cette situation-là aujourd'hui.
Alors,
on n'a pas l'impression qu'il le prend.
Alors,
cette
il a d'importance, mais je ne pense pas qu'il pourrait le prendre. Parce qu'il n'a pas de projet. Le politique n'a pas de projet. Tous les systèmes rassembleurs aujourd'hui n'ont pas de projet d'intérêt général. Ils ont des projets partisans. J'ai fait moi-même de la politique, donc je peux en parler un petit peu. Le gros problème qu'il y a dans des systèmes rassembleurs, c'est ce sont des systèmes. Et que je me souviens un jour d'un autre politique qui me dit « Mais moi, je n'ai pas d'autre choix de rentrer dans la politique que de rentrer dans un parti. J'ai besoin d'un parti. » Mais c'est absolument phénoménal d'entendre ça. Ça veut dire que j'ai besoin, j'irais, de valets à utiliser ou qu'ils vont me soutenir pour fonctionner. Et c'est là où moi je pense que, pour répondre à votre question, il me semble qu'il y a 4 points essentiels qui peuvent changer les choses. À mon avis, c'est d'abord l'éducation, ensuite la formation, ensuite c'est d'aimer les autres. Ça, c'est, il faut, et là j'insiste lourdement là-dessus, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est nier rétroactif, en fait, que de penser d'aimer. Et le dernier point, surtout en Suisse notamment, c'est arriver à oser dire ce que l'on pense. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que si je le dis pas, de toute façon, l'autre le dira à ma place. Ce qui est pas vrai, il faut arriver à exprimer ce que l'on a à dire.
Serge Lederman.
Heureusement, pardon.
Non, ce qui est essentiel, les points ont été mentionnés. Je crois que ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est que le colmatage qui est actuellement en cours, le grand colmatage, se fasse avec un plan. Vraisemblablement, les politiques n'y arriveront pas. D'une part, leurs mandats sont très courts. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent rester dans l'histoire comme étant les gens qui ont sauvé le système, pas les gens qui nous ont amenés sur une nouvelle piste. Donc, effectivement, les pistes sont à chercher ailleurs. Elles sont probablement à chercher au niveau des entreprises, des chefs d'entreprise et, effectivement, des foules. Les foules, aujourd'hui, je crois, se manifestent. Elles parlent relativement fort et elles aspirent à un autre système. Et c'est effectivement par ce biais-là et par l'écoute de ce biais-là qu'on arrivera à modifier les choses. Mais aujourd'hui, le colmatage va nous aider à passer cette crise, tant bien que mal, mais nous amènera malheureusement pas vers un nouveau modèle. Et ça prendra effectivement du temps. Mais écoutons ce que nous dit la base aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous proposer vos réflexions effectivement sur ces changements à venir. On retiendra notamment votre parole, Éric Jaffrin. Aimons-nous. Ce sera le leitmotiv pour cette année 2009. Je vous souhaite extrêmement belle et en pleine santé d'ailleurs. Merci. Aldo Chorneau, Serge Lederman, Éric Jaffrin. Toutes les références de cette émission, vous pouvez les retrouver sur notre site internet cg8.rsr.ch. Et je vous